Chaque après-midi, dès 16h30, sur RTL L'Équipe, Carrément Foot, Raphaël Sebaoun.
Bonjour à tous et bienvenue sur RTL L'Équipe pour votre émission quotidienne consacrée à toute l'actualité du ballon rond, émission qui durera dorénavant une heure de 16h30 à 17h30 pendant le mois de juin. L'émission, vous le savez, quand même, elle reste interactive. Vous pouvez participer à Carrément Foot en laissant tous vos messages. Pour cela, les deux solutions, soit le www.rtl-l'équipe.fr, vous cliquez sur le petit onglet Contactez-nous, ou sinon deuxième solution, Facebook, le groupe RTL L'Équipe. Le sommaire de ce lundi 6 juin 2011. Ce soir, Ukraine-France à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de RTL L'Équipe. Match amical, Laurent Blanc va faire tourner. Quelle équipe alignée ce soir? Qu'attendez-vous de cette Ukraine-France? Les Bleus vont-ils redresser la barre après le nul de vendredi dernier en Biélorussie? Deschamps reste à Marseille, annonce faite par le comité de direction de l'OM. Est-ce une bonne nouvelle pour le club? Deschamps a-t-il obtenu des certitudes sur les moyens et les ambitions du club? Morgan Amalfitano, l'attaquant lorienté, sera-t-il la première recrue marseillaise? Et puis la valse des entraîneurs en Ligue 1, Francis Gillot présenté à Bordeaux. Demain, ce sera au tour de Jean Fernandez à Nancy en Angleterre. Chelsea fait le forcing pour s'attacher les services de Gus Hiddink. Carrément Foot, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30.
Carrément Foot, c'est sur RTL L'Équipe.
Avec le débat donc pendant une heure, nouvelle formule, une heure de débat. Bien évidemment, on va accueillir tous nos débatteurs autour de la table. Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Frais, j'ai l'impression, après avoir passé un week-end de folie, notamment la défaite de l'Algérie face au Maroc en éliminatoire pour la CAN sur le score de 4-0.
Oui, on peut avoir la gueule de bois sans picoler.
Exactement. Salim Bangali, bonjour.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Et puis Dev Apadou, bonjour.
Dev Apadou. On le voit partout. Dev Apadou.
Un jour, je vous manquerai.
Ou pas.
Ou pas, oui.
Ah, ça va, Dev?
Et toi, Raphaël?
Ah bah écoute, ça va très très bien, messieurs donc, ensemble pendant une heure pour toute l'actualité du football. Et on va commencer par l'actualité de l'équipe de France.
RTL
L'Équipe,
Carrément Foot,
Carrément Foot. En plus, il fait beau, il fait chaud,
les
femmes sont belles.
Le Pussycat Tour.
Et oui, la tournée après la Biélorussie, la suite du Pussycat Tour qui nous amène ce soir à Donetsk. En Ukraine, exactement. Retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux pour ce Pussycat Tour, Philippe Sanfourche. Bonjour Philippe.
Bonjour messieurs, je vous sens en pleine forme aujourd'hui.
Oui,
et
donc en
plein de verbe aussi.
Dev Apadou, vous attaquez fort. Philippe Sanfourche, donc en direct de l'Ukraine, bien évidemment, pour le Pussycat Tour, ce match amical face à l'Ukraine. Salim Mangali.
On peut lui poser quand même cette première question. Est-ce que le soleil est chaud? Est-ce que les femmes sont belles en Ukraine?
Ouais, écoutez, je vais même pas vous parler de ça, parce que sinon vous allez déprimer tout seul dans votre petit studio, vous allez arrêter l'émission avant l'heure, donc autant qu'on n'aborde pas ce sujet, qui est totalement indécent.
Surtout qu'à Paris, il ne fait pas beau, et il ne fait plus chaud parce qu'il pleut depuis hier, il y a les orages à Paris, j'espère que vous avez beau temps là-bas.
Mais les filles sont toujours belles à Paris.
Mais les filles sont toujours
si
belles à Paris.
Si certaines nous entendent, je suis sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, puisqu'on n'a plus le droit de citer...
C'est ça.
Si, on a un groupe RTL L'Équipe sur Facebook.
Oui,
on peut le dire.
Non, faut plus le dire.
Faut plus le dire. Faut dire les réseaux sociaux.
Alors, sur le réseau social Facebook.
Oui, voilà. Mais c'est pas sur RTL L'Équipe qu'il souhaite être contacté, Nabil Djellit.
Exactement. Oui, il veut être directement contacté sur sa fiche.
On va pas parasiter Philippe.
Directement. Bon, Philippe. Allez, l'actualité de l'équipe de France. Les dernières infos avant cette Ukraine-France. Match amical à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de RTL L'Équipe. Hein, ce soir, Laurent Blanc va faire tourner son groupe.
Ah, Philippe, on l'a
quitté.
Perdu.
En même
on
temps,
a perdu
vous,
Philippe Sanfourche.
Vu les... Ah, ça y est.
Ah, voilà, on vous a retrouvé. Je disais, Laurent Blanc va faire tourner ce soir, Philippe.
Ah oui, ça, c'est clair qu'il va y avoir une sacrée revue d'effectifs. De toute façon, il avait prévu initialement de faire tourner un petit peu ses joueurs, mais pas dans une proportion peut-être aussi importante que ce qu'il va faire ce soir. À mesure où, en ayant choisi un groupe de 26 joueurs, il pensait quand même à un groupe assez resserré pour faire une sorte d'équipe mixte pour confronter des jeunes talents à des joueurs un tout petit peu plus expérimentés. Vu de ce qui s'est passé en Biélorussie.
Ah, on est en train de vous perdre là, Philippe Sanfourche. On va tenter de rétablir un petit peu la liaison, essayer de vous décaler un petit peu dans votre pièce, dans votre chambre d'hôtel, sur la gauche, sur la droite. Allez, essayons, on va
au
faire un petit test.
Fenêtre.
Vous m'entendez, Philippe? Ah bah là on l'entend plus.
Ah oui, ça c'est sûr.
Voilà, là il s'est déplacé, on sait pas où. Bref, donc on l'a compris, hein, Laurent Blanc va tenter de rappeler Philippe Sanfourche dans quelques instants. Laurent Blanc, le sélectionneur de l'équipe de France, donc il va faire tourner. Tiens, je vais vous donner l'équipe improbable, celle qu'on retrouve dans notre quotidien préféré ce matin. L'équipe avec Steve Mandanda dans les buts, la défense, Anthony Réveillère, Kaboul, Sako dans l'axe, Patrice Evra sur le côté gauche, les trois milieux de terrain avec Mvila, Matuidi et Johan Cabaye, et puis trois attaquants à gauche, Jérémy Ménez, à droite Loïc Rémy, et puis dans l'axe, Kevin Gamero. On l'a compris, hein, c'est une équipe qui est complètement remaniée, relookée, complètement nouvelle. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux de débuter un match face à une équipe, finalement, quand on regarde l'effectif en face, qui est une équipe expérimentée, Dave ?
Compte tenu de ce qu'on a vu contre la Biélorussie, ce qui aurait été dangereux, c'est de réaligner la même équipe. Parce que, pour plusieurs raisons, on a vu une équipe qui était privée de jambes, mais surtout qui était privée, moi, pour moi, d'envie. Et d'ailleurs, Laurent Blanc l'a dit, il a parlé un petit peu de concurrence. Ça, c'est une notion un petit peu nouvelle, quand même, dans le langage de Laurent Blanc. Jusque-là, il était un peu plus dans un travail, on va dire, de réinstaller de la confiance, un peu cocooning, on va dire. Et là, de nouveau, là, il parle enfin de concurrence et il parle un petit peu de réveiller ceux qui les titulaires en place.
Il a mis Réveillère à droite.
Surtout, on a l'impression que le problème, entre guillemets, de la défense centrale avec la blessure de Mexès et donc l'avènement de Mamadou Sakho à ce poste lui a fait comprendre il y avait peut-être d'autres postes aussi où il fallait justement amener cette concurrence, que ce soit au milieu ou en attaque.
Et on a retrouvé Philippe Sanfourche, je vous coupe, hein, Dave Abadou. On a retrouvé Philippe Sanfourche. Vous êtes là, mon bon Fifi ?
Bien entendu.
Ah, formidable. Voilà, on vous entend mieux. Donc, on le disait, hein, ce soir, c'est une nouvelle équipe de France avec beaucoup de joueurs qui n'avaient pas connu de titularisation jusqu'à présent, qui vont être alignés. Vous disiez peut-être un petit peu plus que prévu.
Oui, effectivement, parce que Laurent Blanc a revisionné deux fois ce match contre la Biélorussie et à chaque fois, ça lui a fait un petit peu plus mal à la tête. Et surtout, j'entendais que vous étiez en train de partir sur la notion justement de implication peut-être un petit peu moins importante de la part des soi-disant cadres de cette équipe de France. Et on sent bien à moitié couvert chez Laurent Blanc que il a pas du tout été satisfait des prestations techniques, collectives, physiques, ça c'est une chose, mais de l'implication de chacun, et notamment de certains qui sont censés être des cadres ou des futurs cadres de cette équipe de France, et ça lui pose problème. Et on le voit bien notamment dans sa gestion du capitana, parce que autant en dehors du groupe, je pense qu'il a toute confiance en un garçon comme Alou Diarra, autant il est absolument pas persuadé qu'il sera un des piliers de sa future sélection telle qu'il l'envisage. Donc il n'a pas non plus envie de lui donner complètement les clés. C'est le cas aussi, alors là il a plus de mal à en parler parce qu'on sait que le sujet est délicat, mais c'est évidemment le cas de Franck Ribéry, à qui on a vraiment donné les clés du camion, hein, puisqu'il est à peine revenu en sélection, qu'il est non seulement titulaire, mais en plus au poste sur la gauche où de toute façon il n'a même pas eu besoin de le revendiquer. Donc il y a vraiment eu des défaillances, et notamment au milieu de terrain, et ça après revisionnage du match, Laurent Blanc a un petit peu revu son analyse en étant un peu moins sévère avec ses deux défenseurs centraux, notamment Rami et Sakho, parce qu'ils n'ont eu absolument aucune solution de relance propre durant ce match, dans la mesure où les milieux de terrain étaient complètement défaillants, et ce dès la première minute du match. C'est même pas au bout d'une heure où on pourrait se dire que physiquement forcément les Biélorusses qui sont en plein championnat étaient un petit peu mieux préparés, c'est que dans l'attaque de la rencontre et dans le premier quart d'heure, on a vu, comme le dit Laurent Blanc, une équipe qui d'un côté voulait faire mal à l'autre et une autre qui ne voulait faire de mal à personne.
Salim Mangali.
C'est vrai qu'on s'est tellement focalisé sur cette défense centrale avec le cas Mamadou Sakho qu'on a oublié qu'au milieu de terrain, il y avait Diaby et Diarra qui n'ont pas joué tant que ça d'ailleurs ensemble en sélection, et surtout avec un Diaby qui...
Qui a beaucoup joué avec Diaby de toute façon.
Il a été souvent blessé.
C'est ça.
En même temps, je me permets de vous couper, mais souvenez-vous, en Bosnie, les trois, Diaby, Diarra et puis il y avait Mvila qui était au milieu de terrain, ça avait plutôt bien fonctionné.
Et il y avait Mvila, justement, il y avait les trois au milieu de terrain, et là pour le coup ça avait marché, sauf qu'Mvila évidemment n'était pas là contre la Biélorussie.
Alors qu'on, là on a joué en 4-2-3-1 avec Samir Nasri en opposition de numéro 10. Alors il va tenter un petit peu de bousculer ses titulaires en mettant ses remplaçants. Après, je reviens à ma question initiale, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux de lancer autant de joueurs dans un match amical face à une équipe d'Ukraine qui a quand même des joueurs de qualité.
Raphaël, ça reste un match amical.
Vous le perdez, c'est pas grave. grave.
Voilà, c'est ça.
Non, je suis pas d'accord.
Non,
tu le perds, c'est grave.
Oui, enfin, oui.
C'est grave pour le ranking FIFA. C'est grave
pour la
dynamique.
Oui, non, mais
pour
la manière. Pour voir la manière.
Je suis d'accord. Il y a des fêtes et des fêtes. Mais par contre, c'est vrai que je pense que Laurent Blanc, lui, est vachement imprégné de ce que faisait Jacquet.
Il ne veut
même,
pas.
Mais voilà, les matchs amicaux, même les matchs amicaux, on ne les perd pas. Il y a même match nul, il peut y avoir victoire. Par contre, on ne perd pas les matchs amicaux. La victoire appelle la victoire et la défaite appelle la défaite. Ce que je veux dire, c'est que c'est une nécessité par rapport à ce qu'on a vu, parce que sportivement, il y a besoin de mettre du sang neuf et de bousculer la hiérarchie. Mais je pense qu'aussi humainement, ce groupe a recommencé, certains éléments de ce groupe ont recommencé à tomber dans les travers qu'on avait oubliés. Le papier de Vicente Lizarazu, justement, tu parlais de l'équipe, ouais. Raphaël.
Le papier de RTL.
Voilà, le papier de Lizarazu, finalement, est très bien, je trouve, est très bien imagé. Il parle d'une année scolaire. C'est-à-dire qu'à la rentrée des classes où chacun essaye d'être le bon élève, de bien se faire voir, etc., du professeur Laurent Blanc, et on a l'impression qu'en fin d'année, il y a eu du relâchement. Ce qui est un petit peu étonnant, vu ce qu'avait traversé l'équipe de France, on pensait que cette espèce de repentance, c'est-à-dire bon, on essaye de faire profil bas, on essaye d'être appliqué, on essaye d'être sérieux et de prendre la chose pas par-dessus la jambe, on avait l'impression que cette attitude allait durer. Et là, on a l'impression que déjà depuis même certains matchs précédents, on a l'impression que l'équipe de France retombe un petit peu dans cette facilité, les travers. On avait vu les retards. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de recadrer les choses.
Enfin, en même temps, bon, c'est vrai ce que tu dis, Dave, mais bon. On peut pas en vouloir aux mecs de décompresser un petit peu psychologiquement en toute fin de saison. Ils sont à deux doigts de partir en vacances. C'est même pas une question
c'est
de footballeur.
C'est un match qualificatif.
C'est même pas une question.
Donc, face à la Biélorussie.
Bien de la Biélorussie, ouais. Moi.
Non, mais attends, c'est complètement humain. Non, mais j'ai envie de te dire, c'est même pas une question de footballeur.
Mais pourquoi les Italiens ont fait le boulot? Pourquoi les Allemands ont fait le boulot?
Attends,
la France ne fait pas le boulot.
On a joué à l'extérieur, les Italiens ont joué à domicile contre l'Estonie. C'est pas la même nouvelle.
Enfin, à domicile, on avait perdu contre la Biélorussie.
Bah, par contre, on était dans un contexte particulier.
Bah, l'Allemagne a gagné à l'extérieur.
Ouais, d'accord. Bon, ils ont pas fait le job. On est d'accord là-dessus. Maintenant, il faut faire aussi très attention à pas commencer à tout vouloir psychanalyser sur les comportements des types, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, faut faire gaffe, quoi. Parce que, oui, ils sont peut-être retombés dans des travers, ils ont fait les bons élèves en début de saison, et maintenant ils se relâchent. Qu'est-ce qu'on en sait, au fond?
Il n'y a pas d'envie.
Peut-être qu'ils se relâchent pas, peut-être qu'ils manquent de jus, peut-être que les trois quarts sont usés, peut-être que les Allemands sont titulaires dans leur club et dans des grands clubs, ce qui n'est pas le cas des Français.
Arrêtez avec le manque de jus.
Juste avant, on va libérer Philippe Sanfourche, on va le remercier. Dernier mot, Philippe Sanfourche, concernant les conditions de jeu, ce soir, ça va se jouer dans un stade plein.
Écoutez, a priori, il devrait y avoir un stade quasiment garni, hein, 52 000 personnes. C'est, on l'appelle le diamant, c'est pas pour rien. Il est absolument magnifique, c'est une merveille. C'est le stade de foot moderne par excellence. En plus, il est pas trop grand, je vous disais, 52 000 places. C'est vraiment une petite bonbonne. Là. Il est merveilleusement moderne et technologique. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un beau spectacle. Le seul petit bémol, et là, c'est si on se projette un petit peu plus loin, en vue de l'année prochaine et de l'Euro, c'est qu'il n'y a vraiment que le stade et un bel hôtel autour, mais pour le reste, pour ce qui est des infrastructures routières, hôtelières, des aéroports, il y a vraiment énormément de travail, et en un an, je pense qu'il va y avoir quand même des soucis pour rattraper tous les retards d'ici à l'échéance.
Le Donbass Arena, voilà donc le stade hein, de Donetsk, donc lieu du match de ce soir, vous l'avez fait bien de le rappeler, Nabil Djellit, match de ce soir, match amical entre l'équipe de France et l'Ukraine. Bon match Philippe, à ce soir.
À ce soir, bon match. Bon débat à tous.
Eh oui, on va débattre de ce Poussicat Tour, mais ce sera juste après la publicité, à tout de suite.
RTL équipe, carrément foot. Le débat.
Débat consacré au match de ce soir, Ukraine-France, coup d'envoi 21h, prise d'antenne 20h, le club France RTL, en compagnie de Christophe Paco, de Vicente Lizarazu, de Jérôme Milagou au commentaire, et vous l'avez entendu il y a quelques instants, de Philippe Sanfourche. Le débat se poursuit avec Nabil Djellit, Deva Padou et Salim Bangali. Donc ce match, ce soir, il y a beaucoup de joueurs hein, qu'on va découvrir, peut-être ou redécouvrir au plus haut niveau. Déjà, des joueurs qui vont connaître leur première sélection en équipe de France, c'est le cas par exemple de Younes Kaboul, hein, le défenseur central de Tottenham, Mamadou Sakho, sa quatrième sélection, deuxième titularisation. Déjà, ça fait une charnière qui est assez inexpérimentée. Justement, sur cette charnière, vous pensez qu'elle peut tenir la route? Il n'y a pas d'automatisme.
ça risque d'être dangereux. Salim.
Mais justement, il y a des automatismes à créer, je dirais, parce que dans l'esprit de Laurent Blanc, il y a une défense centrale forcément qui est évidente, Rami Mexès. Ben, il y a peut-être une deuxième de secours, de rechange qui peut être là, éventuellement sur le papier, un Sako Kaboul. Après, forcément, sur un seul match, c'est compliqué de faire ces automatismes-là, mais s'il commence déjà à entreapercevoir certaines choses, ça peut être justement sa solution pour l'avenir.
Dave. On l'a dit, Sako est le seul titulaire de vendredi dernier qui est reconduit. C'est pas tant pour sa performance que parce qu'il y a un besoin.
Non, et surtout, il n'y a pas beaucoup de solutions.
Voilà, mais c'est ça. Il y a un besoin de défenseur central puisque Mexès est absent. Donc, il faut reconduire. Et puis, il y a une autre chose. Au-delà de la nécessité de réaligner un défenseur central qui était présent vendredi, il y a aussi il y a peut-être une demande de Laurent Blanc par rapport à Sako. C'est Rami, je sais dans quel registre il est. C'est le défenseur de contact. Mexès, c'est le défenseur relanceur. Il se trouve que toi, Sako, il va falloir que tu sois un petit peu le défenseur que j'aime. C'est-à-dire, on sait que tu es très fort dans le duel. Montre-moi que tu es aussi capable d'aligner une relance. Qu'on n'a pas vu vendredi. Et je pense que c'est aussi ça qui va être dans le cahier des charges de Sako. C'est OK, très bien, le défenseur de duel, on sait très bien ce que tu es capable de faire. Maintenant, être capable d'avoir le niveau international et selon mes préceptes à moi, c'est-à-dire un défenseur central qui a une bonne relance, comme la Mexès plus que n'importe qui d'autre, mais toi tu dois l'avoir, peut-être pas avoir deux défenseurs de contact, mais que toi tu sois capable de dépasser cette fonction-là.
Et là pour le coup je pense qu'il pourrait notamment être bien aidé au milieu de terrain par un Yann Mvila qui pourra lui proposer des solutions, contrairement à Diarra ou à Diaby qui ont perdu tellement de ballons.
Alors justement le milieu de terrain, Mvila, Kabaï, Matuidi, ça c'est quand même un milieu de terrain très peu connu, on va dire inexpérimental, c'est le cas de le dire. Matuidi qui avait joué le match face à la Croatie en amical il y a quelques mois. Kabaï qui n'a pas de connu de titularisation. Alors on connaît ses qualités de relanceur. Et puis Yann Mvila qui, depuis le début de sa carrière en équipe de France, tout simplement a été exceptionnel. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Nabil ?
Non, je vois que dans l'équipe, il est annoncé à Lille, mais je ne sais pas s'il n'aurait pas fallu mettre Newcastle. Pour
C'est pas encore signé. Hein.
C'est pas encore signé ?
Ah bah non, oui, c'est pas encore signé.
Je suis venu de la mettre en veilleuse alors.
Voilà, mais, exactement.
Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que dans l'idée de jeu de Laurent Blanc, finalement, ce 11 expérimental ressemble un peu plus que celui de vendredi à l'idée que lui se fait un petit peu du jeu. Je parle à part de la ligne de défense. Mettons la ligne de défense à part. Mais ce milieu à trois avec des joueurs qui sont tous très mobiles, très sûrs techniquement, très vifs. C'est le cas de Mvila, c'est le cas de Kabaï, c'est un milieu un peu à la lilloise, on va dire.
Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer qui au final est vraiment le numéro 6 entre guillemets dans ces trois.
Voilà. Mvila, alors ce serait plutôt Mvila parce qu'il a plus
le numéro 6 pour le coup qui va vraiment.
Voilà, mais qui a plus le sens du contact.
Il a marqué des points puis il a le plus gros potentiel.
C'est ça. Et avec un trio d'attaquants qui est très très vif, très percutant, très rapide, qui est très dans la provocation.
Est-ce que ça correspond pas, Dave, finalement à ce que veut mettre en place Laurent Blanc dans le jeu?
C'est exactement ça. C'est exactement le paradoxe en fait. C'est que l'équipe expérimentale, je parle dans l'idée de jeu, ressemble plus à l'idée que veut Laurent Blanc pour cette équipe de France que l'équipe de vendredi qui est supposée être l'équipe titulaire. C'est ça tout le paradoxe
mais,
en fait.
Mais ce qui va être drôle à mon avis, enfin c'est comme ça que je le lis moi avec un petit peu de recul. À mon avis, il nous a mis une équipe titulaire contre les Biélorusses. Là, il met une équipe Ibis. C'est pas l'octel dans lequel sont les Bleus, hein, bien évidemment. Face à l'Ukraine.
C'est nul.
Je m'en fous, j'ai pas le monopole de l'humour.
Oh oui.
Mais j'ai le monopole du cœur.
Très bien, bon, reviens sur ton idée.
Et je pense que contre la Pologne, il va faire un mix des deux équipes.
Donc ça va être une équipe mixte.
Mixte, mais qui peut-être ressemblera finalement à. Vous parliez tout à l'heure d'élèves, de scolaires. Enfin de,
ouais.
C'est peut-être une équipe. Ça sera peut-être
là,
l'équipe.
Là, ce sont les examens. Les bonnes à la notes, fin, quoi. Ils seront récompensés.
Ouais, voilà. Ça pourrait être ça, parce que finalement, qu'est-ce qu'il va faire sur le troisième match ? Là, il teste les mecs sur le deuxième match. Il donne la chance à tout le monde. Il les stimule, il crée de la concurrence, il crée de l'émulation. Et ceux qui s'en sortiront le mieux, ils auront peut-être la chance de se retrouver
mais
dans le match
pas,
face
je crois
à la
pas tant que ce soit
et
une
quelque part, ça peut être un signe aussi pour l'avenir.
Bien sûr,
pour
mais
ces mecs-là.
Je crois pas tant que le troisième match va être une récompense individuelle. Ouais. Je pense qu'après, il va travailler les complémentarités. Mmh. C'est ça, en fait, le football. Là, t'avais un 11 type qui était celui de vendredi. Là, tu as, on va dire, la deuxième grosse salve,
la deuxième vague,
parce qu'il faut faire tourner le plus possible. Donc voilà, qui a une cohérence aussi, qui a une idée. Et c'est vrai qu'à partir de vendredi, puisqu'on aura vu l'essentiel, même il va manquer 4 ou 5 joueurs qui n'auront pas joué, qui vont être alignés. On pense à Carasso, on pense à quelques autres. À partir de là, je pense qu'il va aligner en fonction des complémentarités de ce qu'il aura entreaperçu.
Il pourra éventuellement essayer peut-être Benzema avec un des deux attaquants qui est présent ce soir.
Ouais, ça aussi, c'est change de stratégie, d'autres systèmes.
N'oublions jamais, encore une fois, et j'en reviens aussi là aussi toujours au même, mais lorsqu'il est arrivé à la tête de cette équipe de France, il avait dit je veux évoluer avec deux attaquants.
Et voilà.
Donc peut-être qu'il va enfin pouvoir appliquer ça.
Là, on n'a pas donné satisfaction totalement.
Là, on peut pratiquement jouer avec deux pointes. Hein. Alors, ça va être une question d'organisation. Mais moi, j'ai le souvenir d'un Matuidi pour sa première sélection qui avait joué sur le côté gauche, qui avait joué milieu gauche. Mm-hmm. Et puis, on peut très bien imaginer que finalement, ce soit le cas ce soir. Et puis que Rémi qui joue dans l'axe et Menez à droite. Hein. Ça peut aussi bouger, changer un petit peu pendant le match.
Et puis Rémi, c'est ce que j'en pense même depuis qu'il est à Marseille, son poste préférentiel, et on l'a vu sur la fin de saison, hein, c'est dans l'axe, quoi. C'est là où il est le meilleur.
C'est là où il crée des différences. C'est pas mauvais, justement.
Ouais, mais parce que c'est un peu par défaut. Il y a une ouverture pour lui là, forcément. Le mec, il se dépouille. Mais
il peut avoir une évolution à la Thierry Henry. C'est vrai qu'il se ressemble dans les caractéristiques, mais même dans l'évolution du poste. C'est-à-dire que Thierry Henry, dans ses.
T'es droitier, tu préfères être à gauche.
C'est oui, parce que maintenant c'est la mode.
T'ouvres ton pied.
Voilà, c'est un peu la mode des ailiers
pour
inversés.
Frapper, c'est mieux.
Mais c'est vrai que Thierry Henry évoluait beaucoup dans les couloirs dans les premières années de sa carrière. Puis jusqu'au moment où Arsène Wenger a décidé de le lancer dans l'axe et où il a trouvé la plénitude. Mais il s'était construit techniquement avant en jouant sur les côtés.
Pour moi, c'est clairement un axial, Rémi. Parce que sur son premier coup de rein, si t'es dans l'axe, tu peux faire la différence.
Il met quand même
te retrouver face au but.
Devant, il met deux joueurs qui sont en forme, hein, Gamero, Rémi, qui ont été plutôt bons en cette fin de saison. Donc, qui normalement devraient être physiquement bien ce soir. Par rapport à un Franck Ribéry qu'on a trouvé très juste et un Benzema
et qui ont tous
aussi.
Les deux qualités qui ont peut-être manqué aussi à l'équipe de France.
Ils jouent en Ligue 1
en Biélorussie.
Je sais pas si c'est une qualité.
Ils ont deux qualités, c'est le sens de l'appel. Gamero, il est redoutable là-dessus. Ouais. C'est qu'il a une capacité à jouer à la limite et d'être toujours en mouvement. C'est un casse-tête pour une défense parce que Gamero bouge tout le temps. Loïc Rémy a aussi cette qualité-là, avec plus de puissance, moins dans les petits espaces, mais il a cette qualité-là.
Il y a des joueurs qu'on ne verra pas, hein, finalement, au bout de deux matchs. Enfin, peut-être qu'ils rentreront en cours de jeu. Alors, tu as parlé de Carasso, hein, d'Eva Padou.
Moi, je pensais match, plus...
Voilà. Aussi. Mais Charlène Zogbia, qui a été rappelé par Laurent Blanc, on pourrait le revoir lors du troisième match. Mathieu Valbuena, qui quand même était un titulaire indiscutable au début de l'aventure et de l'ère blanc, qui ne sera pas titulaire une nouvelle fois ce soir.
Il a été moins bon.
Il a connu une seconde partie de saison qui a été très délicate.
Oui, mais c'était l'un des meilleurs Français depuis l'ère Laurent Blanc.
C'est vrai, mais il a été pas mal blessé. Je pense que je sais plus à qui il avait confié ça.
Avant
je
Manchester.
Crois que c'est un de mes confrères, Mathieu Grégoire. Valbuena lui a dit que voilà la course. Contre la montre qui s'est fixé pour participer au huitième de finale contre Manchester lui a fait sauter certainement des étapes dans sa rééducation, sa récupération.
Puis, mais Marvin Martin jouera pas aussi, sera pas
on
titulaire.
Peut-être qu'on le verra. Il a sa place, il peut très bien remplacer un Johan Cabaye
ou un Blaise Matuidi. Et puis il y a Guillaume Moharo, alors bon, qui est à la base le numéro 2 au début.
Bah là, d'accord, mais là c'est bien joué ce que tu dis parce que là c'est un message qui est envoyé à Guillaume.
Ah bah c'est Gamero la doubleur de Benzema aujourd'hui très clairement. C'est le numéro 2 au poste d'avant-centre.
Bien sûr, et puis Laurent Blanc lui a envoyé plusieurs fois des messages, non pas sur sa qualité, mais sur le fait que j'aimerais te voir dans un grand club. Bah, là, quelque part, il n'est pas encore dans un grand club, mais par contre, il a l'occasion de jouer un grand match. Donc, quelque part, il va répondre
Il sera dans pas longtemps dans un grand club, vu que le Qatar va mettre beaucoup
mais
d'argent.
Mais juste, messieurs, par rapport au cas Guillaume Moharo, effectivement, il n'est pas numéro 2 dans ce système-là. Si, effectivement, et ça a déjà été le cas sous la Laurent Blanc, quand vous passez à deux attaquants, là, Moharo est effectivement le numéro 2.
Je ne crois pas une seule seconde qu'il est numéro 2.
On l'a vu lors d'un France.
Parce qu'on l'a vu au début.
Vous me direz, c'était
Luxembourg, attends.
Ah non, mais à deux attaquants. Attaquant, il alignera pas Benzema et Gamero.
Souvenez-vous,
ce
première
sera Oaro et l'un des deux.
Alors justement, souvenez-vous,
tu mets pas de petit.
Souvenez-vous du match.
Benzema est petit.
Messieurs,
c'est pas un joueur de pivot.
Messieurs, souvenez-vous du premier match de l'équipe de France face à la Norvège. Laissez-moi parler. Face à la Norvège, la première paire d'attaquants alignés, ce n'était pas avec Karim Benzema, c'était Oaro Rémy.
Voilà,
c'était Oaro Rémy.
Mais dans un système avec deux points, l'idée, à quelques exceptions près, il y a Rooney et Charito qui sont un petit peu l'exception qui confirme la règle, mais régulièrement, tu as un grand avec un plus mobile qui tourne autour. Un grand pour fixer et puis un mobile
mais
qui prend les
espaces.
Mais
tu penses que Benzema, c'est pas un mec qui peut fixer?
Non, Benzema, c'est pas du tout ce registre-là.
C'est un mec qui peut fixer.
Mais non,
attends,
Benzema,
les gars,
Benzema,
je peux y aller.
Nabil Djellit.
Doucement, merci.
Benzema, c'est pas un joueur de
fixation. On reprend. Bah, je suis pas du tout d'accord avec vous.
Bah, pour être d'accord, c'est un fait.
Bah non, ça c'est toi ce que tu penses. Mais j'ai le droit de passer le contraire et de donner des arguments.
Mais explique-moi les arguments.
Je pense que Benzema c'est un joueur polyvalent qui peut jouer dans plusieurs registres, dans un système d'attaque. C'est un mec qui peut jouer
jamais
en soutien.
Jamais montré ça, jamais.
Non, mais il peut le faire. Mais il peut le faire. Il peut évoluer dans plusieurs registres.
C'est un joueur d'évitement. C'est pas un joueur de fixation.
Oui,
c'est pas un joueur de pivot. C'est pas un joueur qui joue dos au but.
Il est capable de le faire.
Mais arrête, il est capable. Tu supposes. Nous on a vu. Il l'a jamais montré.
Il l'a déjà fait.
Non, jamais.
Ah, je l'ai déjà vu
ça,
le
faire. Sur cours départagé.
Oui, avec Bron.
Malheureusement, je suis bien obligé d'aller dans le sens de Dave Apadou.
T'as le droit d'y aller sans.
C'est là...
Je vais pas mal le prendre.
Détile-le, vas-y,
mais peut-être que Karim.
Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il peut tout faire.
Laisse parler les autres maintenant, Nabil.
Mais on n'a pas eu l'impression de l'avoir vu cette saison, même lorsqu'il était à Lyon, le faire justement en.
Excuse-moi, j'ai regardé tous les matchs du Real de Madrid.
Real Madrid.
Il y a beaucoup de buts où il n'était pas la conclusion, mais à plusieurs reprises, quand je parle de joueur qui fixe, c'est pas fixer, contrôler et faire Brandao, c'est dévier. Il est bon pour dévier les ballons quand ils viennent de derrière. Il est bon pour les dévier pour un mec qui est autour de lui qui arrive rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il a une qualité technique et il est instinctif. C'est ça que je voulais dire.
C'était toujours dans une attaque à 3, c'était jamais dans une attaque à 2.
Mais non, pourquoi il ferait pas à 3 ?
Mais non.
Pourquoi il ferait pas à 2 ?
Mais non.
Mais,
parce que c'est des joueurs qui plongent qui viennent des côtés.
Si t'as un mec qui est à côté de toi, le ballon il arrive, tu dévies de la tête ou tu dévies d'une talonnade astucieuse. Ah ouais, je suis désolé. Ce mec là, il sait tout faire.
Non, mais c'est pas ça, tu peux pas parier sur le fait qu'il va sortir un geste comme ça, tu peux pas construire le Guillaume Moiro, c'est son fond de commerce. Alors, il est bon ou il est pas bon, mais en tout cas, c'est ce qu'on sait.
Mais on est content de le voir en équipe de France. Ça, c'est une certitude, Karim Benzema. Transition, parce qu'il faut qu'on en parle un petit peu, le temps passe. Messieurs, on aurait pu le voir lors du Algérie-Maroc, ou plutôt Maroc-Algérie.
Tu te délectes.
4-0 de l'Algérie face au Maroc. 4-4. On en parle un petit peu dans Carrément Foot quand même. Mon cher Nabil,
c'est un amateur, on rappelle ce Baoun.
Si, on peut.
Écoutez, c'est un homme visiblement blessé, meurtri.
Oui, il faut en parler justement.
Moi, j'ai passé 2 heures hier avec un international algérien dont bien évidemment je ne citerai pas le nom. Quelques éléments pour expliquer. Non, je ne dirais pas ça par contre. Quelques éléments pour expliquer cette déroute. Effectivement, il y a eu un effondrement psychologique de l'équipe algérienne après le premier but. Une équipe qui joue beaucoup sur des qualités de solidarité et de collectivité. Et là, ça ne s'est pas retrouvé. Donc il y a des éléments qui expliquent ça. Effectivement, il y a apparemment eu un problème de préparation puisque les joueurs ont subi apparemment un travail trop intense et à 2 jours du match, ils se sont retrouvés avec des courbatures. Donc on est passé d'un extrême à un autre. C'est-à-dire avec Saadane, tu faisais des taureaux, puis ça rigolait et puis on se débrouillait sur le terrain. Et là, ils ont eu l'opposé avec Abdelhakim
Belkacem.
C'est le général.
Ouais, le général au pays des généraux. Elle est très bonne. qui a apparemment un petit peu forcé sur la dose. Mais c'est pas seulement ça. Effectivement, il y avait une très belle équipe du Maroc. La mayonnaise a pris entre ces joueurs marocains. Moi, j'ai envie de parler du syndrome malien. C'est quoi le syndrome malien en Afrique ? C'est une juxtaposition de talents avec une alchimie qui ne prend jamais.
Ils ont une belle équipe.
T'avais Seydou Keïta, Diarra Mamadou.
Et puis Eric Guéret sur le banc. Alors, est-ce que justement, il n'y a pas une explication ?
Eric Guéret qui a réussi à galvaniser ses troupes sur un incident qui s'est passé. Et on en a discuté notamment avec Salim. Avant ce match, Adil Tarabt qui claque la porte de la sélection marocaine en prenant le premier vol pour Marseille sans prévenir personne parce qu'il avait appris qu'il était non titularisé pour cette rencontre. Donc c'est quelque chose qui a galvanisé finalement ses troupes et j'allais dire comble de l'histoire pour Adil Tarabt. En fait, dans ce match, il y a un vainqueur et 2 grands perdants. Le vainqueur, c'est Eric Guéret qui a réussi finalement à faire le premier match, à réaliser le premier match référence de cette équipe marocaine depuis très très longtemps. Et les 2 grands perdants, c'est Abdelhak Benchika, le sélectionneur algérien qui a démissionné dans la nuit, forcé par le président de la fédération alors qu'il avait le soutien de encore des joueurs mais pris sous le coup de l'émotion. Et le 2e grand perdant de cette histoire, c'est Tarabt. Tarabt qui s'est esquivé et qui a planté ses copains en pensant qu'à sa gueule. Résultat des courses, le mec qui a été mis à sa place, qui s'appelle Essaidi, et je vous demande de retenir ce nom et ce prénom, c'est le joueur de Yerevan, a fait un match extraordinaire. Tout ça pour Essaidi, il joue à Yerevan. Tout ça pour vous dire qu'au championnat des Pays-Bas, il y a effectivement des très beaux joueurs qu'on ne connaît pas ici en France. On devrait peut-être, à l'instar du Portugal, jeter un coup d'œil là-bas pour aller recruter des joueurs. On se souvient que Lyon avait été cherché, notamment Mamadou Diarra, à Utrecht.
C'est vrai, le Malien qui aujourd'hui n'est plus un grand joueur de
foot. Un dernier mot, si je puis me permettre. Des noms circulent en Algérie pour remplacer Abdelhak Benchika, Vaïd Ali Lodzik, Roland Courbis, Claude Leroy. Il n'est pas certain que ce soit ces mecs-là qui soient retenus. En tout cas, l'option première algérienne, ça sera un entraîneur étranger pour donner un peu de tactique et de discipline à cette équipe.
L'Algérie battue par le Maroc sur le score de 4-0. Et puis ce soir, n'oubliez pas le rendez-vous Ukraine-France, match amical à suivre en direct et en intégralité sur le www.rtl-l'équipe.fr.
16h30 et 18h sur RTL L'Équipe, Carrément Foot, Raphaël Sebaoun.
Et la deuxième partie de Carrément Foot à présent, page Ligue 1 et page entraîneur. Et oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses, hein, concernant les entraîneurs. Tout d'abord, cette annonce, hein, faite cet après-midi, Didier Deschamps reste à l'Olympique de Marseille. On va prendre la direction de Marseille dans un tout petit instant. Retrouver Jean-Louis Pacul, la valse des entraîneurs en Ligue 1, avec Francis Gillot, qui a été présenté à Bordeaux aujourd'hui. Et puis demain, ce sera au tour de Jean Fernandez. Jean Fernandez, donc, qui va s'engager avec le club de l'AS Nancy-Lorraine. Ensuite, on prendra la direction de l'Angleterre avec Chelsea, qui fait le forcing pour s'attacher les services de Gus Hiddink. On reviendra bien évidemment sur cette actualité. Vos messages également via le www.rtl-l'équipe.fr, l'onglet Contactez-nous, ou sinon via Facebook, le groupe RTL L'Équipe.
Carrément Foot, la Ligue 1.
Mais tout d'abord la Ligue 1, l'actualité de l'Olympique de Marseille et cette bonne nouvelle pour les Marseillais. Toujours en compagnie de Deva Padou, de Nabil Djellit et de Salim Bangali, on va accueillir notre correspondant à Marseille, Jean-Louis Pacul. Bonjour Jean-Louis.
Salut à tous.
Et la bonne nouvelle donc, on l'a appris cet après-midi, Didier Deschamps poursuit son aventure avec l'Olympique de Marseille.
Bah écoutez, si vous vous souvenez bien, et je suppose que vous avez tous une bonne mémoire, ce que je disais il y a quelques semaines, j'étais de ceux qui pensaient que Didier Deschamps ne partirait pas de Marseille. D'abord parce que il avait répété plusieurs fois qu'il lui restait un an de contrat, qu'il aimerait bien voir y jouer dans ce stade Vélodrome tout neuf. Hein, les travaux de rénovation ont commencé, la première pierre c'est le 9 juin. Hein. C'est donc dans quelques jours, cette semaine, qu'on posera la première pierre. Donc voilà, pour toutes ces raisons... moi, j'étais de ceux qui pensaient que Didier Deschamps ne partirait pas. Parce que partir pour aller où ? On se rend compte que la AS Rome a trouvé un entraîneur, la première chose, Luis Enrique, et que deuxièmement, Didier Deschamps, s'il part d'un club comme l'Olympique de Marseille, c'est pour aller dans un club qui lui offre mieux d'un point de vue financier sans doute, mais aussi d'un point de vue purement sportif. L'ambition de Didier Deschamps, c'est d'aller le plus loin possible avec un club français en Ligue des Champions ou de gagner la Ligue des Champions, mais ça, il sait que c'est pas avec un club français. Donc, il pouvait pas aller à la Roma et il y avait la possibilité de Chelsea. Bon, là, on se rend compte que c'est Gus Hiddink qui tient la corde. Gus Hiddink qui a quand même un passé international d'entraîneur bien supérieur à celui de Didier Deschamps. Donc, pour toutes ces raisons, moi, j'étais de ceux qui pensaient que Didier Deschamps resterait à Marseille et il l'a confirmé cet après-midi.
Et le conseil de surveillance l'a donc confirmé aujourd'hui par la voix de Vincent Labrune. Salim Bangali.
Messieurs, on le sait tous, Didier Deschamps est quelqu'un de relativement réfléchi. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. S'il a décidé donc de rester à Marseille, c'est pour les raisons qu'a évoquées Jean-Louis, mais aussi... il a dû recevoir donc des garanties, au moins pour la saison prochaine, pour le recrutement, des garanties financières. Parce que Deschamps, non. Et tout le monde le sait, Marseille est obligé aujourd'hui de recruter, de se renforcer.
Pas de garantie donc pour la saison prochaine en termes de moyens, Jean-Louis.
Non, parce que je pense que l'Olympique de Marseille va bénéficier d'une rallonge de entre 15 et 20 millions d'euros que consentira le conseil de surveillance et ce sera acté jeudi prochain, enfin jeudi, là, après-demain.
15 à 20 millions alloués au transfert ou pour le tout, c'est la saison prochaine ?
Non, pour honorer les sorties financières de l'Olympique de Marseille. Sachez quand même que pendant 3 ans, l'OM va devoir se passer d'une partie des recettes du stade Vélodrome. Hein, c'est évalué à peu près à... sur 3 ans, à 18, entre 18 et 20 millions de pertes.
C'est énorme. C'est énorme.
De pertes sèches en billetterie. Et le conseil de surveillance, pour compenser ces baisses attendues, prévues, incompressibles de trésorerie, en guichet, en recettes pures au stade Vélodrome, le conseil de surveillance, avec l'accord bien entendu de Margarita Louis-Dreyfus, va consentir un prêt à l'Olympique de Marseille à hauteur entre 15 et 20 millions d'euros qui seront déjà budgétés pour compenser les pertes. Donc voilà, l'OM n'a pas d'argent pour recruter ou aura très peu d'argent pour recruter et en tout cas devra trouver pour recruter de l'argent d'une manière strictement interne. Donc c'est pour vous dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas de garantie donnée à Didier Deschamps.
Nabil.
Et au niveau du mercato, comment ça va se passer? Ça va être toujours un attelage entre José Anigo et Didier Deschamps, parce qu'on sait que ça avait posé, quand même, ça avait posé quelques problèmes la saison dernière, notamment avec ce mercato qui avait été un peu tourmenté du côté de l'Olympique de Marseille. À ce niveau-là, comment ça va se passer? Est-ce que, à ton avis, ils vont se rapprocher l'un de l'autre et collaborer de manière un peu plus unie, ou est-ce que c'est des fantasmes de Parisiens que je suis?
Je pense qu'il y a un peu des deux, quoi. Dans la mesure où, pendant que Didier Deschamps est en vacances, José Anigo, à l'heure où on parle, est en train de faire signer Amalfitano, ça pourrait même être officialisé en fin de journée, l'histoire, et que Amalfitano signe parce que le club lui plaît, mais parce qu'il a l'accord et de José Anigo et de Didier Deschamps. Les deux techniciens se sont mis d'accord sur ce nom-là. Les deux savent qu'il n'y aura pas d'argent pour recruter de grandes vedettes internationales, et les deux savent qu'il ne faut pas se tromper sur le recrutement. Alors, c'est vrai que l'an dernier, on avait monté en épingle le cas Luis Fabiano, mais moi, quand je vois la fin de saison de Loïc Rémy, je me dis que l'OM a bien fait, et même si c'est José Anigo qui a effectué ses transferts, Gignac et Loïc Rémy, je me dis, a posteriori, qu'est-ce qu'il a eu raison éventuellement de rentrer en conflit avec Didier Deschamps pour préférer le tandem Gignac-Loïc Rémy à Luis Fabiano.
Enfin, Gignac, il y a quand même des doutes. Rémy, on veut bien te croire, mais Gignac, on se pose quand même ça.
Loïc Rémy a marqué 16 buts depuis le début de la saison. Il y a eu peut-être une première mauvaise saison pour André-Pierre Gignac.
Non, mais
on verra la saison prochaine.
Quand tu te rends compte à un moment que Jordan Ayew, qui coûte Wallou, quoi, qu'ils ont formé, qu'ils ont trouvé, est meilleur que Gignac, est plus efficace sur la fin
tu
de saison.
Tu verras la saison prochaine aussi.
Oui, mais t'avais dit ça il y a 6 mois déjà, Raphaël.
Jordan Ayew, non.
Non, par rapport à Gignac.
Non, mais attends, c'est sa première saison.
Moi, je mets des guillemets.
Non, mais attends voir la deuxième saison d'André-Pierre Gignac, parce que si la saison prochaine il te plante 20 buts, on aura l'air tous bêtes autour de la table.
De Marseille, donc,
toujours attendre l'année de la confirmation pour une deuxième saison dans un club. Salim Mangali.
Donc en tout cas, Didier Deschamps qui va poursuivre son aventure à Marseille, et la saison prochaine, alors je me projette, vous allez me dire déjà, mais Jean-Claude Dacier l'a dit il y a quelques jours chez nos confrères de la Provence, ça pourrait être sa dernière année. Donc en même temps, on pourrait pourquoi pas avoir la saison prochaine et Deschamps et Dacier qui pourrait partir de Marseille. Donc là, ce sera de nouveau un autre sortie. Je me projette, évidemment.
Vous savez, mais un président salarié, c'est pas important dans un club.
C'est symbolique quand même, c'est très fort, Jean-Louis.
Non. Écoutez.
Parce que entre Bertrand Marchand qui connaissait rien à Marseille et Jean-Claude Dacier qui a une certaine gouaille, il y a quand même une différence.
Non, mais on parle pas là de la faconde et de la manière de parler devant les micros. Moi, je respecte beaucoup le travail qu'a fait Jean-Claude Dacier, mais quelqu'un qui vient du football, faire un président, c'est beaucoup plus un président salarié. Hein. Je ne parle pas d'un président comme Aulas, par exemple, qui est un président actionnaire principal. Mais un président salarié, c'est quand même un peu plus facile à trouver qu'un excellent entraîneur, par exemple. Donc, et puis Jean-Claude Dacier, il a dit ça, mais il sera sans doute à Marseille la saison prochaine, et avec Didier Deschamps. Donc, n'allons pas trop vite. Didier Deschamps reste à Marseille. Moi, j'étais convaincu qu'il le ferait, et c'est une bonne chose. Ils vont essayer de construire une équipe aussi performante, si ce n'est plus, que celle de la saison dernière, avec 80% de l'effectif de la saison dernière.
Et avec l'arrivée prochaine donc de Morgan Amalfitano, l'attaquant.
Et le maintien des deux frères Ayew, de Rémy, de Gignac et de Valbuena.
Ça se renforce dans le secteur offensif. Si on garde un petit peu tout ça, ça peut être pas mal pour la saison prochaine.
Il commence à y avoir le choix des armes.
Il y a le choix des armes.
Il n'y a que Lucho et Heinze. Voilà. Il est quasiment parti. Il a
et Ayew aussi. Donc ça
Ayew est parti au Milan AC.
Hilton.
Et Lucho, l'OM attend une proposition à hauteur de 13 millions d'euros. Ouais. Pour le moment, il n'y en a pas.
Il y a des grosses pertes aussi avec Hilton et Abriel.
Oh, te moque pas comme ça, Nabil Djellit. Si je te vois là en train de rigoler un petit peu, de te moquer, c'est pas bien.
Ils sont toujours pas partis.
Ils sont toujours pas partis, exactement. Tant qu'on n'est pas partis, on est toujours là. Merci Jean-Louis Pacul.
Salut à tous.
Salut Jean-Louis.
Carrément foot, la Ligue 1.
On reste sur l'actualité des entraîneurs. Là, par contre, il y a eu du mouvement. On va parler à la fois de Francis Gillot, qui a été présenté aujourd'hui au club des Girondins de Bordeaux. Et puis, on parlera également dans 10 minutes de Jean Fernandez, qui sera présenté demain dans son nouveau club de l'AS Nancy Lorraine. Tout d'abord, Bordeaux, Francis Gillot. Il l'a vu, ça y est, c'est fait. La conférence de presse est terminée. C'est Denis Grandjou, notre correspondant. Salut Denis.
Salut tout le monde.
Salut Denis.
Alors, ça y est, vous avez vu votre nouvel entraîneur aux Girondins de Bordeaux?
Ah oui, et puis ça fait du bien, hein. Ça fait du bien de
voir quelqu'un qui parle.
Un homme qui arrive, qui serre la main, qui dit bonjour, qui regarde pas partout comme un parano, s'il y a des caméras, des micros branchés, quelqu'un qui arrive simplement dans un club qui lui a aussi demandé de venir et à qui il a dit oui quasiment tout de suite parce qu'il nous, il m'a expliqué, Bordeaux ça se refuse pas. J'avais tout le confort possible à Sochaux, mais j'avais fait le tour de la question. Je sais que il part d'une intuition qui le conduit à, qui l'a conduit en Aquitaine. Enfin, c'est quelqu'un qui, pour son premier contact avec la presse, il était aux côtés de Jean-Louis Triaud, a vraiment été naturel et tout en simplicité. Enfin, Francis Gillot, quoi. Donc, c'est vraiment, on va dire qu'il a réussi son entrée.
Enfin, fais gaffe, hein, Denis, parce que tu sais, dans 6 mois, si les résultats vont pas bien, l'entraîneur, il va devenir parano aussi, hein, comme tous les entraîneurs finalement.
Mais Gillot, pour l'avoir suivi un petit peu, il a toujours ce côté hyper nature, hyper détaché de la pression médiatique. C'est-à-dire que lui, il dit toujours à peu près ce qu'il pense. S'il n'a pas envie d'en parler, il n'en parle pas. Mais ce que je veux dire, il ne va pas changer son comportement en fonction. Il ne va pas tomber dans une sorte de paranoïa. À la limite, lui, ça n'intéresse pas, ce jeu-là. Donc, il a ce côté un petit peu qu'a Jean Fernandez. Il est un peu de cette école-là.
Mais c'est vrai que le côté franc-parler, on l'a vu cette saison, notamment lors des conférences d'après-match. Lorsque son équipe n'était pas bonne, il le disait cash. Mes joueurs ont été mauvais, etc. Donc ça, pour le coup, il ne se cachera pas. Et la saison prochaine, si Bordeaux continue sur certaines performances, il n'hésitera pas à le dire également.
On pourrait croire que c'est parce qu'il était à Sochaux, que bon voilà, c'est un club familial. Certes, qui a une grosse histoire, mais qui aujourd'hui est plus un club familial qu'autre chose. Mais à Lens, l'année où ils sont en course pour la Ligue des Champions, etc., alors que c'était Lens, hein, c'était pas l'équipe là
qui. C'était une autre équipe de Lens.
Voilà, c'était une autre équipe de Lens, c'était une des 4-5 meilleures équipes du championnat. Il avait exactement cette attitude-là. De ce point de vue, les journalistes girondins, c'est vrai que ça va être un grand écart terrible avec Jean Ticanard.
Nabil, avant de redonner la parole à Denis Grandjean.
Justement, non, c'est pour interpeller Denis.
Hein. Ah bah interpelle, vas-y, police, mais pas comme la police, merci.
Exactement, putain.
On a les mêmes pas de grosse certitude.
Est-ce que derrière lui, t'as vu des joueurs de foot avec des sacs Louis Vuitton ou Gucci? Est-ce qu'il y a des joueurs dans ses bagages, à ton avis?
Non, dans ses bagages, il y a ces deux assistants qui sont là, qui viennent. Parce que lui, il a tenu à ce que vraiment toute ça, on va dire, son groupe de travail soit complet. Donc, il vient avec ses deux assistants, avec ses deux coachs. Lui, il prend un petit peu plus de recul, comme il le faisait à Sochaux. Mais c'est lui qui va dicter donc sa philosophie de jeu, à savoir un jeu. Il nous l'a répété, hein, un jeu offensif. Mais il va faire aussi avec les moyens
du bord,
dont il dispose. Ouais, voilà. Mais c'est non. Et alors, le seul nom qui pourrait venir à Bordeaux, c'est Maurice Bellet. Le président Triaud a confirmé qu'il n'était pas du tout opposé à l'arrivée de ce joueur si Francis Gillot estimait qu'il était nécessaire au groupe bordelais, un groupe, et je tiens à le dire aussi, qui pour l'instant n'est pas, on parlait beaucoup de très nombreux départs, il n'y a pas eu, on va dire, de demandes fermes et officielles de clubs autres que Bordeaux, notamment pour Bonat Tremolinas, notamment pour Alou Diarra, il n'y a eu aucune demande officielle. Le seul départ qui semble acté, c'est celui du milieu de terrain qui joue aussi, qui peut jouer 5, Fernando Menegazzo, qui lui devrait partir pour fin de carrière en Arabie Saoudite.
Arabie Saoudite, sympa.
C'est la mec du football.
Exactement.
Ambitieux. Maurice Bellet, ça serait un joueur de complément, mais surtout, il y a un chantier quand même terrible à Bordeaux pour Gillot. Mais non, mais globalement, la plupart de.
Devant aussi.
Devant,
hein.
Au milieu, il y a un gros, gros, gros chantier, quasiment dans toutes les lignes. Il y a beaucoup à reconstruire. C'est-à-dire, je ne remets même pas en cause la valeur des joueurs individuellement, mais beaucoup de joueurs, et on nous le confirmera ici, mais je veux dire, sont arrivés au bout de l'histoire à Bordeaux. C'est presque le grand ménage qu'il faudrait faire dans cette équipe pour repartir sur des basses saines. Je pense que c'est une équipe qui a fait le tour de la question entre Ricardo et Laurent Blanc, parce qu'on oublie toujours que ça avait commencé pour l'essentiel avec Ricardo. Laurent Blanc a fait aboutir ce groupe qui a fini par exploser. Et derrière, Tigana, bon, on n'aime pas, mais de toute façon, il ne pouvait pas reprendre cette situation avec ce groupe-là. Gillot, ce sera pareil. Donc, il ne faut pas se voiler la face.
Non, je ne suis pas sûr.
Denis Grandjean.
Je suis pas sûr que ça soit pareil parce qu'il a un vrai projet. Il a un vrai projet. Il a vraiment insisté sur un mot qu'on n'entendait pas forcément avec Jean Tigana. C'était le travail. Et c'était pas du tout un cliché dans la bouche de Francis Gillot. Je pense qu'il va vraiment mettre les joueurs au travail parce qu'il considère que c'est par ça, que c'est par cet élément essentiel que ça doit passer, on va dire, entre guillemets, le renouveau bordelais parce que lui.
Pourquoi Tigana, il ne faisait pas bosser les joueurs?
Bah non, mais ça bossait pas bien. Ça bossait pas bien. Il n'y avait pas de communication. Il y avait une très mauvaise entente entre lui et Michel Pavon, qui était son assistant, son adjoint.
Et les joueurs étaient vraiment derrière Tigana ou même pas?
Ben non, ils étaient devant.
Même quand ils faisaient des footings?
Il y avait pas, on sentait pas un leader de vestiaire chez les joueurs et on sentait pas un leader, on va dire, un stratège sur le terrain au niveau du staff. Donc là, je pense que Francis Gillot vient avec cette espèce de regard très, très clair, très perçant et aussi cette volonté de travail et de plaisir. Il nous a dit, il faut que les joueurs, il bosse, quoi, voilà. Et si on bosse, on va y arriver parce qu'il croit, lui, dans ce groupe, même si on peut s'attendre effectivement à des, peut-être à des départs, mais pour l'instant, officiellement, encore une fois, je vous le répète, il n'y a pas d'annonce et de demande officielle de club pour prendre de, notamment les stars, on va dire, que ce soit Alou Diarra ou la star, entre guillemets, Benoît Tremoulinas. Cédric Carrasso lui a re-signé pour deux saisons.
Nabil.
Deux choses, je pense qu'il y a quand même une perte des valeurs financières pour les joueurs qui sont restés, qui n'ont pas été bons cette année, genre Tremoulinas, comme tu as pu citer, ou Alou Diarra, qui au lieu de partir à 8 millions d'euros, comme il aurait pu partir l'année dernière, partira peut-être à moins. Pareil pour Tremoulinas, je ne connais pas sa valeur initiale. Et puis un autre élément qui avait été assez marquant, vu de l'extérieur.
Très gros salaire, en plus.
Vu de l'extérieur, c'est aussi le recrutement plus ou moins, pas hasardeux, mais pas très bon, quoi, de Bordeaux. Ben Kalfala qui n'a pas donné ce qu'on pouvait penser. Il y a eu aussi l'épisode Mazou. Ouais. Modeste, je pense que c'est quand même un joueur qui a du potentiel, qui a peut-être besoin d'être mis dans des bonnes conditions et dans un bon système de jeu. Mais je pense notamment à Moussa Mazou. Il y a André qui n'était pas la pointure espérée.
Enfin, en tout cas, il y avait la coupe de cheveux.
Voilà, enfin, il avait le puto à mort sur la tête. en gros, donc. Non, mais bon. Non, mais c'est vrai, quoi.
Ça s'est fait.
Non, mais je crois que c'est aussi un élément sur lequel il va falloir faire très attention, parce que finalement, quand tu arrives et tu veux reconstruire en partie une équipe, c'est aussi faire les bons choix des hommes qui vont venir et qui vont devoir apporter un plus.
On suivra en tout cas, bien évidemment, le recrutement de cette équipe de Bordeaux tout au long des prochaines semaines, les départs, les arrivées, le chantier pour Francis
Gillot,
l'entraîneur des Girondins de Bordeaux.
C'est déjà un premier bon choix. Et généralement, le premier bon choix, quand tu choisis bien ton entraîneur, ça en entraîne d'autres, quoi. Donc
oui,
ça, c'est
déjà une chance. Ouais.
Ça, enfin, c'est déjà un
j'entendais certaines personnes dire que Gentil Gana était un très bon choix l'été dernier.
J'ai jamais pensé ça, moi.
Pas vous, toi, oui, toi, mais il y en avait beaucoup qui pensaient ça.
Ah, je me suis trompé sur d'autres choses. Là, j'ai jamais pensé que Tigana c'était un bon choix.
On verra.
Parce que c'était des gens de plus de 50 ans.
Sûrement.
Voilà.
Ah bah voilà.
Des gens qui bossaient à France Football.
Écoutez, j'ai rien dit.
Très bien, merci. Oh, merci Denis Grandjou, merci mon Denis. Bon courage, bonnes vacances.
Bon, mais là, je suis confiant pour la saison prochaine.
Oui, enfin, voilà. La saison passée, il était confiant aussi. Enfin,
gardez bien cette bande-là parce que.
17h19. On en reparlera, bien évidemment.
Pour la saison ou pas. Prochaine. Salut les gars.
Allez, ciao, Denis Grandjou.
RTL équipe, carrément fou. Raphaël Sebaoun.
La valse des entraîneurs, toujours. Jean Fernandez, donc, qui quitte la JOCR et qui va rejoindre la S Nancy Lorraine. Présentation de l'entraîneur. Demain, ce sera en conférence de presse. Il sera présent, bien évidemment, demain. C'est de notre ami Dimitri Ramelot. Bonjour, Dimitri.
Bonjour à tous.
Comment ça va, Dimitri ?
Oh bah écoutez, très bien. Hein. On est ravis ici d'accueillir Jean Fernandez.
Décidément.
Ah bon ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous étiez pas triste du départ de Pablo Correa ?
Joker,
merci. Bon, on a tout compris alors. Non, oui, on l'imagine une bonne nouvelle pour l'AS Nancy Lorraine. C'est un entraîneur chevronné, expérimenté, qui arrive à Nancy. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le club.
Ah non, mais c'est pas une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. C'est quelqu'un qui se prend pas pour ce qu'il n'est pas. C'est quelqu'un de discret, de profondément humain. Je le connais un peu, hein, parce que moi je l'ai eu 3 ans comme entraîneur du FC Metz et personne ne l'a oublié. C'est quelqu'un qui est énormément dans l'affect avec ses joueurs, mais pas trop non plus, pour pas que ça devienne du n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est très branché, évidemment, les filières de jeunes, et on sait que la S Nancy Lorraine a un centre de formation qui tourne coup-ci, coup-ça, mais bon voilà, peut-être que Fernandez peut apporter une impulsion à ce niveau-là. C'est un travailleur de l'ombre, c'est quelqu'un qui fait pas de vagues, c'est pas quelqu'un qui est forcément attiré par les micros et les caméras, il répond mais il en fait pas 2 tonnes non plus. Non, c'est franchement, écoutez, pour moi c'était le profil idéal. Je n'y croyais absolument pas avant qu'il annonce son départ au CER, je n'y croyais pas plus après, parce qu'on pensait que voilà, il allait atterrir à Bordeaux ou à Lyon. D'ailleurs, il semblerait qu'il ait très longuement hésité avec Lyon. Et quand on a appris ça hier soir, j'étais pas le seul, j'ai eu des supporters tout à l'heure. Voilà, tout le monde est absolument ravi. J'ai pu discuter rapidement au téléphone avec le président Rousselot qui ne pavoise pas, mais je pense qu'intérieurement il sait qu'il a fait un énorme coup en recrutant Jean Fernandez.
Mais alors justement, c'est une bonne surprise pour Nancy, l'arrivée de Jean Fernandez. C'est vrai qu'on est étonné parce qu'on aurait pu penser que, excusez-moi, hein, Dimitri Ramelot, Jean Fernandez avait un petit peu plus d'ambition, hein, je me fais un petit peu provocateur.
Un club PUP,
parce que là il va jouer quoi, Jean Fernandez, avec la S Nancy Lorraine, le maintien?
Bah, il va jouer, oui, il va jouer le maintien parce que ça fait depuis que Nancy en 2006 est remonté en Ligue 1, en 2005 en Ligue 1 qu'on nous sert qu'il faut jouer le maintien. Mais il va d'autant plus jouer le maintien que Nancy a quand même failli descendre cette saison. Alors c'est vrai qu'on regarde le classement, ils sont 13e, c'est formidable, c'est le meilleur classement depuis je sais pas combien de temps. Oui, enfin ils ont quand même juste sauvé leur peau à la dernière journée en mettant 4-0 à Lens, qui était déjà certes relégué, mais enfin jusqu'à la fin du match, on était quand même sûr de rien. Nancy aurait pu jouer en Ligue 2. À partir du mois d'août prochain. Donc oui, il va jouer le maintien, mais Jean Fernandez, regardez bien, il est allé à Marseille, il a fait deux passages à Marseille qui sont pas extrêmement bien passés. Je crois que c'est quelqu'un qui a besoin de travailler, on le connaît un peu et il nous l'a dit, de travailler sereinement, de travailler calmement dans des clubs voilà, où on ne fait pas de vagues, qui ne sont pas forcément exposés, des clubs comme le sont Auxerre, Metz et comme l'est l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, il va pouvoir travailler, excusez-moi l'expression, mais pépère avec ses joueurs dans une ville moyenne et pourquoi pas faire un coup comme il en a fait avec Auxerre, hein, avec Auxerre en les qualifiant pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Voilà, donc peut-être qu'il a compris qu'il n'était pas fait pour aller à Lyon, à Bordeaux, au Paris Saint-Germain ou retourner à Marseille. Il s'est dit, voilà, en plus, bon, c'est une région qu'il connaît, il a rencontré sa femme à Metz, sa femme aime beaucoup cette région, sa femme connaît la femme de Jacques Rousseau, elle s'entend très bien. Voilà, je pense qu'à un moment, tout ça a joué et qu'il a hésité.
C'est l'amour fou.
Forcément Lyon, forcément
on
Lyon.
Peut, on ne peut, peut pas être plus complet, là.
Exactement. Non,
franchement, ouais, je suis à deux doigts de tomber amoureux, quoi, de tout ce que tu as de Jean Fernandez. Mais sincèrement...
Non mais si vous voulez, c'est vrai que Lyon ça peut faire envie, mais peut-être qu'à un moment il a posé les choses sur la feuille de papier, il s'est dit ouais c'est vrai que ça fait envie Lyon, mais bon c'est vrai que peut-être que Nancy est plus approprié pour ma carrière, pour ma vie personnelle et pour voilà, pour terminer peut-être doucement. Alors je dis pas qu'il finira à Nancy, parce que peut-être que justement pour son dernier challenge il y a 56 ans, il voudra faire un dernier gros club, parce que je sais pas s'il va rester entraîneur jusqu'à 75 ans, mais bon voilà, ça a probablement joué dans son choix.
Salim. Tout à l'heure Dimitri évoquait le profil de Jean Fernandez, qui est notamment un coach qui regarde beaucoup les centres de formation, les équipes réserves, etc. Mais quand on pense à Nancy, un club qui n'a pas un budget pharaonique non plus, la SANL est obligée ainsi de et regarder dans son centre de formation, de regarder en Ligue 2, voire même en National, comme Jean Fernandez a pu le faire avant. Rappelez-vous, à Ribéry, quand il le recrute à Metz, c'est parce qu'il est à Brest avant, dans les divisions inférieures.
Il pourrait refaire un coup. L'histoire de Ribéry, elle est hallucinante. Wow. Quoi. Il est entraîneur à Metz, il y a un match à Raoul-Étape, Brest. Il y va, il ramène le gamin dans sa voiture, il le fait signer, il ne le quittera pas pendant quelques mois, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il est parti à Galatasaray, bon, après Ribéry. Mais bon, je veux dire, voilà, c'est un découvreur de talent, c'est quelqu'un qui sait trouver le joueur compétent, qui réussit à voir dans le joueur ce qu'il peut devenir, et tout ça en allant dans les divisions inférieures où forcément ça coûte pas cher, voire rien du tout. Et c'est vrai qu'un club comme Nancy, qui a 40 millions d'euros de budget, mais 13 millions de trous à combler aussi, bon ben voilà,
c'est
un garçon,
ça, en fait.
Un garçon comme ça peut forcément
non,
aider.
Mais c'est exactement ça, c'est que le côté recruteur malin, dénicheur de talent
il y a un petit peu de ça.
Ça colle exactement avec à la fois les moyens et à la fois peut-être l'ambition de Nancy, alors que peut-être que dans un club on va dire plus huppé entre guillemets, peut-être Bordeaux, etc., là il y a tout de suite un peu la notion d'aller chercher des joueurs au talent confirmé.
Il y a aussi un autre truc qui a joué, je pense, dans cette décision, c'est que si vous voulez à l'AS Nancy-Lorraine, dans la pyramide, vous avez qui? Vous avez Jacques Rousseau, vous avez Nicolas Hollweck et vous avez l'entraîneur. C'est tout. C'est-à-dire que Jean Fernandez, il sait que s'il a besoin d'un truc, il n'est pas obligé de passer par un conseiller du président, par je sais pas quoi, par je sais pas qui. J'ai la pyramide, c'est trois personnes. Donc voilà, ça se veut encore une structure familiale. Il y a une personne qui s'occupe plus ou moins de la communication à la Nancy-Lorraine. C'est encore très familial, si vous voulez, dans le fonctionnement, même si il y a un moment, il va falloir que ça prenne une envergure un petit peu plus sérieuse, parce que le football d'il y a 20 ans, c'est plus le football d'aujourd'hui, c'est plus le football d'il y a 20 ans.
Alors justement, Dimitri, de quels moyens va disposer Jean Fernandez, est-ce qu'il sait à quoi il va avoir droit pour la saison prochaine?
Alors écoutez, moi je vais vous dire, je pense que l'arrivée de ce garçon va profondément changer ce qu'on pouvait imaginer en termes d'arrivée et de départ de joueurs. Je m'explique. Un cas comme Julien Ferret, par exemple, je pense qu'en aucun cas, n'importe qui, quand bien même Sir Alex Ferguson arrivera à Nancy, je pense que Ferret ne restera pas à l'AS Nancy-Lorraine. Mais il y a des joueurs où c'est peut-être, si vous voulez, un où on pouvait se dire ils vont partir et où finalement ils vont peut-être réfléchir. Je pense à un garçon comme Gennaro Brasigliano, parce que le poste de gardien, il va falloir quand même regarder Brasigliano, capitaine emblématique, gardien emblématique, qui s'est fait chipper la place de numéro 1 par Grégorini. Ça va être intéressant à regarder. Michael Chrétien, est-ce que Fernandez peut pas le relancer? C'est vrai qu'il est sur la descendante, c'est vrai qu'il est très blessé, c'est vrai qu'il y a 3 ans il valait 7 millions d'euros, aujourd'hui il va peut-être 1 ou 2 maximum. Voilà, des gens comme Zairua qui coûte 100 000 euros par mois. À un moment, est-ce que le président Rousselot s'est pas dit ouais, on va le faire partir à l'étranger? Est-ce que, voilà, Fernandez ne peut pas faire de ce garçon, Vairua, quelque chose, un joueur qui peut-être donne un petit peu plus? Hadji est donné par au Qatar, est-ce qu'on va quand même pas essayer de le garder? Et surtout, au terme d'arrivée, on sait que Fernandez est un homme de réseau. C'est un homme qui a ses lieutenants dans les clubs, qu'il suit. On va citer Maoulida, on va citer Roy Contou, hein, à Auxerre, qu'il a sorti de la réserve à Metz. Voilà, il peut emmener aussi ce genre de joueur parce que c'est quelqu'un qui est très fidèle et qui a une relation très particulière avec les joueurs en général et les joueurs qu'il sort de la formation en particulier.
Jean Fernandez, donc, qui sera le prochain entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine, bien évidemment. La conférence de presse, vous y serez
11h30
demain matin. Eh bien, levez-vous tôt, hein, demain matin. N'oubliez pas de mettre votre petit réveil. Et on l'entendra, Jean Fernandez, demain sur l'antenne de RTL et de RTL Équipe. Merci, Dimitri.
Salut à tous.
À plus.
Carrément foot sur RTL Équipe. Raphaël Sebaï.
Il nous reste 2 minutes, Salim, Dave et Nabil, pour parler...
Pour un
de...
quiz.
Non, pas le quiz. Juste très rapidement, parler de l'arrivée peut-être de Gus Hiddink à Chelsea.
Oh, bah,
Chelsea est
faire,
très chaud, voilà. Donc on va laisser la parole à Dave ou à Salim qui
très
veut...
Très bon casting si se vérifiait. Gus Hiddink, il faut savoir qu'il y avait une première expérience déjà à Chelsea. Il avait récupéré une équipe qui était à la dérive à l'époque, après le passage manqué de Scolari. La greffe n'avait pas prise. Chelsea était loin en championnat, était un peu largué, même on les donnait un peu perdants, même en Ligue des Champions. Et Gus Hiddink, à partir du moment où il était arrivé, je me souviens, c'était un match à Aston Villa. Aston Villa qui était deuxième ou troisième du championnat à ce moment-là, qui carburait, qui était très très fort. Chelsea, sous la coupe de Hiddink, joue ce match, va gagner 1-0 but d'Anelka, et là se lance dans une série quasiment d'invincibilité. Je me demande même s'ils perdent. Je crois qu'ils perdent un seul match, c'est à Barcelone. Et il y a ce. Y a
ils sont invaincus en championnat.
Non, ils font 0-0, 1-1 hein, contre Barcelone. Ils ne perdent même pas à Barcelone.
Ils perdent même pas à Barcelone, oui, c'est ça, exactement. Et il y a ce match contre Barcelone au match retour où ils doivent gagner à 30 secondes près, même pas à 10 secondes près, la frappe d'Iniesta. Ils sont en finale. C'est-à-dire que Gus Hiddink avait fait un petit peu une sorte de ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire ces espèces de missions de sorcier, quoi.
Et Salim,
tout à l'heure, on parlait d'affect avec Dimitri Ramelot et Jean Fernandez avec les joueurs. Et bien, Gus Hiddink, on le sait, il est très apprécié des joueurs. Didier Drogba, notamment, qu'il avait relancé dans cette équipe de Chelsea. Donc, si Gus Hiddink arrive, Drogba sera de nouveau titularisé. Mais là, il y aura de nouveau un casse-tête.
Quid de Fernandez-Torres.
On aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment, lors de l'officialisation de ce transfert. C'est quand même pas encore fait. On attend que le petit papier soit signé. Merci à Nabil Djellit, merci à Saïm Bangali, merci à Dave Apadou. C'est la fin de Carrément Foot.